de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. La Thaïlande dit qu'elle dispose de suffisamment d'espaces hospitaliers au milieu d'une nouvelle vague de coronavirus. Des journalistes japonais ont demandé à la junte birmane de libérer leurs collègues détenus. Les États-Unis ont averti les compagnies aériennes de se méfier de voler près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. La Grande-Bretagne lance un groupe d'experts sur la préparation à faire face aux futures pandémies. L'Union européenne distribue 3,4 milliards roupias pour aider les victimes des inondations et des cyclones à Nusa Tenggara orientale. La Grande-Bretagne doit respecter le protocole du Nord irlandais, a affirmé l'Allemagne. Le gouvernement ne cible aucune importation de carburant en 2030. Mon cher auditeur, voici les nouvelles en complet. La Thaïlande dit qu'elle dispose de suffisamment d'espaces hospitaliers au milieu d'une nouvelle vague de coronavirus. Les autorités sanitaires thaïlandaises ont assuré mardi au public qu'il y avait suffisamment de lits d'hôpital pour le nombre croissant de patients atteints de coronavirus au milieu de la nouvelle vague de COVID de ce mois-ci qui s'est propagée rapidement à travers le pays. La politique de la Thaïlande de traiter tous ceux qui ont été testés positifs à COVID-19, même ceux qui ne présentent pas de symptômes, a soulevé des inquiétudes quant à sa capacité d'hospitalisation en cas d'augmentation du nombre de patients présentant des symptômes graves. Les autorités ont signalé mardi 1443 cas du nouveau coronavirus et 4 décès supplémentaires. Ce chiffre apporte le nombre total de cas d'infection par le coronavirus en Thaïlande à 45 185, avec 108 décès au total. La Thaïlande a été félicitée pour sa réponse rapide aux flambées précédentes, mais elle n'a pas encore lancé de vaccination de masse. Les journalistes japonais ont demandé à la junte birmane de libérer leurs collègues détenus. Un groupe de journalistes au Japon a demandé mardi à la junte birmane de libérer un collègue, Yuki Kitazumi, un journaliste japonais qui a été arrêté à Yangon à la suite d'une répression des médias au milieu des manifestations contre le renversement du gouvernement élu par l'armée. C'est ce qu'a déclaré Isoko Mochizuki lors d'une conférence de presse à Tokyo mardi. Mochizuki est un collègue journaliste et ami de longue date de Kitazumi. Le groupe de journalistes a lancé lundi une pétition en ligne visant la junte birmane et le gouvernement japonais demandant la libération de Kitazumi. Jusqu'à présent, environ 2000 personnes ont signé la pétition. Les journalistes ont appelé le gouvernement japonais à faire plus pression sur le gouvernement de la Birmanie pour qu'il libère Kitazumi, qui a été détenu dimanche soir par l'armée birmane devant son domicile à Yangon pour avoir prétendument répandu des mensonges. Les États-Unis ont averti les compagnies aériennes de se méfier de voler près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. La Federal Aviation Administration, FAA, des États-Unis a exhorté lundi les compagnies aériennes à être très prudentes lorsqu'elles volent près de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Citant les risques possibles pour la sécurité des vols, la FAA a noté qu'il y avait une augmentation des tensions régionales entre la Russie et l'Ukraine, ce qui pourrait potentiellement entraîner des combats transfrontaliers inopinés, une activité militaire accrue et ou des conflits. En 2014, un vol MH17 de Malaysia Airlines d'Amsterdam à Kuala Lumpur a été abattu au-dessus de l'est de l'Ukraine. Des missiles ont été tirés depuis des zones tenues par des rebelles pro-russes lors des batailles avec les forces gouvernementales ukrainiennes. Tous les passagers du MH17, soit 298 personnes au total, ont été tués. Les deux tiers d'entre eux sont des citoyens des Pays-Bas. La Grande-Bretagne lance un groupe d'experts sur la préparation à faire face aux futures pandémies. Reuters a rapporté mardi que la Grande-Bretagne lancera un nouveau groupe d'experts internationaux pour aider à améliorer la préparation du monde à la prochaine pandémie. Le groupe devrait également contribuer à accélérer le développement de vaccins contre les maladies émergentes à l'avenir. Lancé sous la présidence britannique au sein du groupe G7, le groupe d'experts fera rapport au sommet du G7 en juin. Ils vous conseilleront sur la manière d'atteindre l'objectif de développement d'un vaccin contre de futures maladies dans un délai de 100 jours. Le secrétaire britannique à la santé, Matt Hancock, a déclaré cela avant la réunion virtuelle des deux jours du groupe. Un groupe appelé Pandemic Preparedness Partnership sera présidé par les conseillers scientifiques au chef du gouvernement britannique, Patrick Vallance. Ce groupe de pilotage comprend des dirigeants des fabricants de vaccins COVID-19, AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson, ainsi que des scientifiques. L'Union européenne distribue 4,4 milliards de roupies pour aider les victimes des inondations et des cyclones à Nusa Tenggara orientale. L'Union européenne achemine des fonds d'un montant de 200 000 euros, soit environ 3,4 milliards de roupies, pour aider les personnes touchées par les inondations massives et le cyclone tropical Seroja dans l'est de Nusa Tenggara orientale. Avec cette aide, l'Union européenne a exprimé sa solidarité avec l'Indonésie pour le grand nombre de résidents touchés par le cyclone Seroja. L'Union européenne est prête à soutenir ceux qui en ont besoin en temps de crise. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Piquet, dans un communiqué reçu mardi par Antara Jakarta, a déclaré que sur le montant total, 150 000 euros ou bien 2,6 milliards de roupies fournis par le biais des projets ICOP et Envision financés par l'Union européenne seraient alloués pour répondre aux différents besoins de 3850 ménages vulnérables, 136 villages, et pour la distribution d'équipements de protection individuelle à 150 agents de santé dans 3 hôpitaux pour anticiper l'augmentation du nombre de cas de COVID-19, tandis que 50 000 euros, 857 millions de roupies pour renforcer l'appui aux projets existants, notamment pour atteindre les ménages les plus vulnérables. La Grande-Bretagne doit respecter le protocole du Nord irlandais, a affirmé l'Allemagne. L'Allemagne a exhorté mardi la Grande-Bretagne à se conformer à tous les accords de divorce du Brexit après que l'Union européenne a entamé une action en justice contre les actions unilatérales de Londres en Irlande du Nord. C'est ce qu'a déclaré le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth, avant une réunion avec ses homologues de l'Union européenne. Roth a déclaré aux journalistes que les règles convenues dans le protocole étaient la clé pour préserver les acquis du processus de paix en Irlande du Nord. Le protocole d'Irlande du Nord et le protocole de l'accord de retrait du Brexit couvrant la situation spécifique en Irlande du Nord. Lors des négociations sur le Brexit, toutes les parties ont convenu que la protection de l'accord de paix en Irlande du Nord était une priorité absolue. Le gouvernement ne cible aucune importation de carburant en 2030. Le gouvernement cible à ne pas importer du carburant et de gaz de pétrole liquéfié en 2030, c'est ce qu'a déclaré mardi le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales Arifin Tasrif au bureau présidentiel de Jakarta. Un certain nombre de questions discutées, selon Arifin, étaient la demande croissante d'énergie à long terme et l'offre limitée des ressources nationales. Il a également indiqué qu'avec les développements actuels liés aux objets de réduction des émissions, l'Indonésie devait les anticiper afin d'être en mesure d'encourager les sources d'énergie nouvelles et renouvelables en tant que mix énergétique national. Arifin a admis que l'utilisation des énergies nouvelles et renouvelables en Indonésie est encore faible. C'est seulement 10,5 gigawatts et devrait augmenter en 2025 selon l'objectif de 23% à 24 000 mégawatts. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, no.
Bonjour à tous, maintenant c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui intitulé « Escalade des tensions américaines, Chine au début de l'ère Biden-Harris ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, deux des grandes puissances mondiales ont montré leur puissance dans la mer de Chine méridionale. Cette expression peut être utilisée en relation avec l'augmentation du nombre de flottes américaines et chinoises dans la mer de Chine méridionale. Comme l'ont rapporté les médias internationaux, au cours du week-end, les activités militaires menées par la Chine et les États-Unis dans la mer de Chine méridionale se sont intensifiées. Le week-end dernier, Pékin a envoyé le porte-avions Liaoning dans les eaux de la mer de Chine méridionale. Pendant ce temps, les États-Unis et les Philippines ont préparé des exercices militaires conjoints dans la zone maritime contestée. Dans le même temps, Washington et Manille ont également discuté de la possibilité d'accroître la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le mouvement militaire et le discours diplomatique qui ont été évoqués ont montré l'intention tant de la part des États-Unis que de la Chine de lutter pour l'influence dans la région Indo-Pacifique. L'escalade des mouvements militaires des deux pays a été montrée pas seulement dans la région de la mer de Chine méridionale, mais aussi dans la mer de Chine orientale. La question de Taïwan est une raison pour les deux pays de déployer mutuellement des troupes en mer. Les États-Unis ont déployé les porte-avions USS Theodore Roosevelt et Nimitz dans la mer de Chine orientale, tandis que la Chine compense également les activités d'entraînement militaire dans les droits de Taïwan. On peut dire que les relations entre les États-Unis et la Chine après l'administration de Donald Trump, n'ont pas montré de changements significatifs. Dans cette situation, la politique étrangère des États-Unis à l'époque Biden-Harris a également attiré l'attention. Selon la vision de Biden, la politique étrangère de Washington est de faire des États-Unis un leader mondial, à la fois géopolitique et géoéconomique, l'un des objectifs étant l'Indo-Pacifique. Cette orientation de la politique étrangère de Biden-Harris préoccupe certainement Pékin. Naturellement, la Chine doit faire un effort pour suivre le mouvement des États-Unis dans la réalisation de sa vision de politique étrangère. En effet, il y a des indices que ces deux grands pays relâcheront la guerre commerciale qui a culminé dans les dernières années de l'administration de Donald Trump. Cependant, la relation entre les deux au début de l'administration Biden n'était certainement pas complètement harmonieuse. C'est dans cette perspective que l'occurrence de mouvements militaires en mer de Chine méridionale et en mer de Chine orientale peut être comprise. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 21 avril comme journée de Kartini. Chaque année, le 21 avril, le peuple indonésien commémore l'anniversaire de Raden Ajeng Kartini, la pionnière de l'égalité des sexes en Indonésie. Elle est née à Jepara, dans le centre de Java, le 21 avril 1879. Habis gelap terbitlah terang ou de l'obscurité à la lumière est le titre d'un livre tiré d'une collection de lettres de Raden Ajeng Kartini à ses amis aux Pays-Bas. Ces lettres prouvent à quel point Kartini voulait libérer son peuple de la discrimination qui avait été enracinée à son époque. La lutte de Kartini a également été prouvée par la création d'écoles gratuites pour les filles à Jepara et Rembang dans le centre de Java. Comme tenu de l'ampleur des services de Kartini à la nation indonésienne, le gouvernement du président Soekarno a désigné Kartini comme un héros de l'indépendance nationale et a déterminé que l'anniversaire de Kartini devait être commémoré chaque année, qui devint plus tard connu sous le nom de Journée de Kartini. L'autre information est sur la Bibliothèque numérique mondiale et inaugurée le 21 avril 2009. La Bibliothèque numérique mondiale est une bibliothèque numérique inter-État gérée par l'UNESCO et la Bibliothèque du Congrès des États-Unis. Cette bibliothèque est inaugurée le 21 avril 2009 et se veut une source de référence pour les documents primaires de divers documents mondiaux importants qui peuvent être accédés gratuitement. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 21 avril 2019, l'attentat à la bombe au Sri Lanka. Trois églises au Sri Lanka et trois hôtels de luxe dans la capitale, Colombo, ont été la cible d'un attentat suicide à la bombe le 21 avril 2019. Peu de temps après, il y a eu une petite explosion dans un complexe résidentiel à Dematagoda, une maison d'hôte à Dehiwala. Au total, 267 personnes ont été tuées, y compris au moins 45 ressortissants étrangers. 3 policiers, 8 bombardiers et au moins 500 autres blessés. Selon l'agence de renseignement de l'État, une deuxième vague d'attaque était prévue, mais a été empêchée par les raids gouvernementaux. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan di detik saat kau katakan ya. Oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku dan ku berharap gitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekal
perlahan dalam hidupku, oh. Dan kini ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita, lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu. Dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang akan terjadi selalu bersama. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu, oh dari dulu. Kau sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, le ministre des Transports s'efforce de faire les véhicules électriques comme besoin de masse. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, s'efforce de devenir les véhicules électriques comme besoin de masse. Cela a été transmis lorsqu'il a visité l'exposition de véhicules électriques organisée par la Direction générale des transports terrestres à la gare de l'Est de Bekasi dimanche le 18 avril. L'exposition a été organisée en collaboration avec un certain nombre d'entreprises et de communautés d'activistes de véhicules électriques. Dans un communiqué de presse, Budi Karya Sumadi a déclaré que le président avait publié le règlement présidentiel numéro 55 de 2019 concernant l'accélération du programme de véhicules à moteur électrique à batterie pour les transports routiers. Le ministère des Transports a donné suite à ce règlement présidentiel en faisant un certain nombre de règlements sur le véhicule électrique par le biais d'un règlement du ministère des Transports. Ce règlement réglemente entre autres le test de type physique de véhicules à moteur électrique, certains véhicules utilisant un moteur électrique, ainsi que la conversion des motos entraînées par une moto à combustion en une moto électrique à batterie. Le ministère des Transports créera également une feuille de route dans le but que d'ici 2030, les véhicules électriques auront été largement utilisés par le public. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a révélé qu'un certain nombre d'autres efforts ont été faits, notamment en encourageant l'utilisation de bus électriques à travers un programme d'achat de services dans plusieurs villes, telles que Bandung, Bali, Surabaya et Medan. Le programme d'achat de services est un système d'achat de services par le gouvernement en accordant des subventions complètes aux opérateurs avec une norme de service minimum prédéterminée. Comme étape initiale, l'utilisation des transports respectueux de l'environnement sera utilisée pour les transports tels que Transjakarta et Damri en tant que transport urbain. Outre les bus, le ministère des Transports encourage également l'utilisation de véhicules électriques pour les taxis et les motos. Le ministère des Transports a également coordonné avec le ministère des Entreprises publiques et le président directeur de PLN pour construire davantage de bornes de recharge pour les véhicules électriques à batterie. Le ministère des Transports et des fonctionnaires de premier échelon de son ministère ont également utilisé des véhicules électriques comme véhicule officiel. Il a encouragé d'autres ministères et agences à utiliser également des véhicules électriques, de sorte que son utilisation est de plus en plus massive. Budi Karya Sumadi a rappelé que la production de mazout continue de baisser, tandis que la demande continue d'augmenter. On espère que l'utilisation de véhicules électriques sera le véhicule de choix pour la communauté qui est respectueux de l'environnement et peut améliorer la qualité de l'air en Indonésie. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Oh,
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices, nous nous rencontrons dans le magazine culturel. Pour ce soir, nous vous invitons à visiter le géosite Piai Nemo. L'étendue de l'eau bleue, les vents forts et le soleil brûlant ne nous ont pas empêchés de venir voir la beauté d'un groupe d'îles qui s'alignait parfaitement dans la résidence de Raja Ampat en Papouasie occidentale. Cette petite île est l'un des endroits qui a été nommé Géosite Indonésie. Depuis novembre 2017, la zone de Raja Ampat est désignée géoparc national par le ministère indonésien des Affaires maritimes. Selon l'UNESCO, il y a trois éléments principaux dans un géoparc, à savoir la géodiversité, la biodiversité et la diversité culturelle. En attendant, sa gestion doit tenir le principe d'un développement économique établi à travers un patrimoine géologique ou un géotourisme durable. Cela signifie que cette zone géologique peut être maximisée son potentiel économique grâce à un tourisme qui accorde une attention à la préservation du géoparc lui-même. Piai Nemo est le nom, une petite île qui ne peut être atteinte que par bateau pendant 2 heures depuis l'île de Waigeo, la ville de Waisai, a une vue inimaginable sur sa beauté. En gravissant 330 marches, vous atteindrez le sommet d'un rocher ou d'une colline karstique qui présente des dizaines d'îles géosites de Piai Nemo. Piai Nemo est l'emplacement le plus emblématique de Raja Ampat avec l'île Wayag. Les rangées de roches karstiques qui dépassent de l'océan sont les principales attractions de la région du district de l'ouest de Waigeo de cet archipel. En raison de ces Piai Nemo, Raja Ampat est connu dans le monde entier comme l'un des plus beaux sites touristiques. Site de projet pilote, Piai Nemo devrait être un exemple de gestion durable des écosystèmes et des ressources côtières. Le gouvernement local cherche à améliorer la gestion globale des récifs coralliens et des écosystèmes côtières. La communauté environnante a été encouragée à développer une économie créative sans détruire la durabilité des récifs coralliens et des écosystèmes côtiers dans leur ensemble dans l'emplacement du géosite de Piai Nemo. L'existence d'un géosite est très importante pour que les humains reconnaissent leur civilisation et comprennent l'histoire de la formation de la Terre dans son ensemble. Avec une bonne compréhension, on espère que les humains pourront réaliser les différents types de potentiels qui existent dans le futur sur la base des informations du passé. De plus, en étudiant le passé de l'univers, les humains devraient être plus attentionnés et disposés à protéger correctement leur environnement. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain!
without you. I think that I am falling for you. A simple equation of love wouldn't be so hard. Hold on, I think I'm in love. Hold on, I think I'm in love. With you.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission, c'est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia. Avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministre indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec Maudry? Le sujet d'aujourd'hui est Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini? Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini? En français, le Dr. Ani Praktik-t-elle cet après-midi? Bonne écoute! Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini? Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini? En français, le Dr. Ani Praktik-t-elle cet après-midi? Cette conversation se déroule par téléphone entre Kevin et le registraire de la clinique. Kevin a contacté la clinique pour s'inscrire.
Halo, Klinik Yasmin, ada yang bisa saya bantu?
Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini?
Ya, beliau praktik, Pak.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Apakah Dr. Ani Praktik Siang Ini? Apakah Dr. Annie praktek siang ini? En français, le Dr. Annie pratique-t-elle cet après-midi? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et puis vous pouvez me répéter. Clinique Yasmine. Clinique Yasmine. La clinique Yasmine. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? En français, je peux vous aider? Pratique. Pratique. Pratiquer. Dr. Annie. Dr. Annie. La Dr. Annie. Siang ini. Siang ini. Cet après-midi. Apakah Dr. Annie praktik siang ini? Apakah Dr. Annie praktik siang ini? Est-ce que Dr. Annie pratique-t-elle cet après-midi? Clinique Yasmine. Clinique Yasmine. En français, Clinique Yasmine. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la question « Apakah Dr. Annie praktik siang ini? » Apakah Dr. Annie praktik siang ini? En français, est-ce que la Dr. Annie pratique-t-elle cet après-midi? Dans cette question, il y a le mot de question « Apakah ». Apakah. En français, est-ce que. L'une des fonctions du mot de question « Apakah ». Apakah, est-ce que, est pour mettre l'accent sur les informations que vous voulez savoir spécifiquement, comme quelqu'un qui vient ou pas, aller travailler ou pas, ou pratiquer ou pas, à un certain moment. Par exemple, apakah Dr. Annie pratique siang ini? Apakah Dr. Annie pratique siang ini? En français, est-ce que la Dr. Annie pratique-t-elle cet après-midi? Chers amis, maintenant écoutons un autre exemple de question pour mettre en évidence les informations que vous souhaitez connaître. Kevin, apakah Dr. Annie ada di klinik siang ini? Apakah Dr. Annie ada di klinik siang ini? En français, est-ce que la Dr. Annie est à la clinique cet après-midi? Employé de clinique? Yeah. En français, oui. Kevin. Apakah Dr. Annie sudah datang? Apakah Dr. Annie sudah datang? En français, est-ce que la Dr. Annie est déjà venue? Employé de clinique? Belum. En français, pas encore. Pour la note, le mot beliau est pareil comme le mot dia. Dia. En français, elle ou il. Le pronom beliau, est utilisé comme pronom de la troisième personne que nous respectons. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Halo, Klinik Yasmin, ada yang bisa saya bantu?
Apakah Dr. Annie praktik siang ini?
Ya, beliau praktik, Pak.
Bonjour, Jolitar, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
So hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got. Yeah.
with all uncertainty. Treasure every part of it, yeah, we watch you believe.
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous et à toutes. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et je vais vous présenter une chanson de Java occidentale intitulée Jol. Chers amis, la chanson Jol a été rendue populaire par Dul Sumbang, un musicien de l'ouest de Java. Les paroles de la chanson Jol parlent à une personne qui est incapable de résister à la présence d'un ancien amant qui l'a souvent blessé et trahi. Cependant, à chaque fois que l'ex-amant revient, il a du mal à refuser sa présence, même s'il essaie de fermer la porte au cœur. L'ex n'arrête pas de venir et ouvre avec force la porte au cœur. Enfin, de compte, la serrure de la porte du cœur a été perdue et restez ouverte à jamais. Pour ce résultat, voici Dul Sumbang va chanter une chanson intitulée Jol. Et bonne écoute.
Jol, anjen datang dari sangga sabah barakali ngahiana nyanyi toro jol anjen datang deui jol anjen datang deui ku aneh na kuring betleng-leng hararese nutup hati toro jol anjen datang deui. Hianat kumsinga nyeri kuring leng-leng elek deui daek deui poho-poe kana kanyeri
kuring
itu tutup anjen dibuka, tutup buka ruksa yang
Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @boyindonesia, et d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook, The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.